France Culture.
À voix nue, cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Yasmina Reza, figure importante du monde des arts depuis un quart de siècle et jouée dans le monde entier. Couronnée par un Molière de l'auteur en 1987, dès sa première pièce, Conversation après un enterrement, elle triomphe quelques années plus tard avec Art et devient le premier auteur non anglo-saxon distingué par un prestigieux Tony Award. En 2010, Le Dieu du Carnage lui vaut un nouveau Tony Award et une adaptation cinématographique signée Roman Polanski. Cette série d'À voix nue lève le voile sur une artiste qui se prête très peu à l'exercice de l'entretien, et c'est d'ailleurs le sujet de sa dernière pièce, Comment vous raconter la partie. Deuxième entretien, le début de l'écriture, c'est toujours une image.
Ce nouvel épisode de cette série d'À voix nue, Yasmina Reza, va peut-être davantage s'intéresser à l'œuvre. On n'oubliera pas la vie tout de même. Justement, avant de devenir l'auteur joué dans le monde entier, primé dans le monde entier, que ce soit avec Art, avec Dieu du Carnage, avec d'autres pièces qui comptent celle-ci que je viens de citer parmi vos plus grands succès. Et si nous avons parlé précédemment de vos origines, de vos années d'enfance, de formation, j'aimerais revenir aux origines de l'écriture, qu'on n'a pas vraiment évoquée. J'ai lu dans des entretiens que vous avez pu donner que l'écriture, elle commence quand même très tôt, par des poèmes. Est-ce que vous avez le souvenir, ou est-ce que vous avez même gardé vos premiers écrits, Yasmina Reza?
Ma mère les a gardés. J'avais fait un petit cahier où je signais mon nom. À la fin, il y avait une petite fleur. C'était un carnet. Ou quand je relis, moi, ces poèmes, ça ne m'arrive pas toutes les cinq minutes, mais dans l'âge adulte, je les ai relus. Ils sont minables. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Il y avait cette phrase, tous les enfants sont poètes sauf Minou Drouet, mais on pouvait dire presque, beaucoup d'enfants sont poètes, mais pas Yasmina Reza.
Vous aviez quel âge pour ces premiers poèmes?
À mon pic, à ma grande, je devais avoir 8-9 ans. Et c'était pompé à droite, à gauche. Alors, il y avait un tout petit mais, ce qui était intéressant quand même, c'est les thèmes, pour certains. Il y avait quand même de l'abstraction et de la métaphysique. Par exemple, je me souviens d'un poème, je m'en souviens de celui-là parce qu'il avait été primé. En fait, il avait été primé parce que les gens s'étaient rendu compte que c'était pas les parents qui l'avaient écrit. C'était évidemment l'enfant. Mais il était quand même la vie faite de bonheur, la vie faite de malheur, en subissant l'heure et la peur. Donc j'avais 8 ans, et ce qui est intéressant, c'est pas les mots, mais la thématique, qui était déjà assez... assez ambitieuse, finalement, enfin, ou en tout cas tournée vers le sombre.
Mais dès le début, ça, c'était pas une activité secrète, c'était quelque chose que vous avez besoin de partager, envie de partager?
Ah non, c'était pas du tout secret.
Au contraire.
Mes poèmes, j'étais poète.
Il fallait que ça se sache.
Je les montrais à ma famille, qui s'extasiait dans la minute. Et voilà, j'avais un cercle d'admirateurs très très restreint. Enfin, ils n'étaient pas dans un tiroir secret.
Mais vous avez souvent vous avez souvent dit que votre père non seulement avait un regard bienveillant, mais ce qui est plus important, valorisant.
Oui, il avait un regard très valorisant. Alors j'essaye de me souvenir. Mon père s'occupait pas tellement de moi, mais j'essaie de me souvenir. À quel moment j'ai senti le regard valorisant? Alors, je pense que c'est à travers l'écriture, mais pas à travers les poèmes. J'étais une élève très médiocre. J'étais une élève, pas mauvaise ni bonne. J'étais une élève moyenne. Et plutôt moyenne basse. Mais il y avait une matière où j'étais très bonne, vraiment. C'était le français. Et je pense que j'étais très bonne aussi parce que j'ai eu la grande chance, je le vois avec mes enfants, ça joue beaucoup, d'avoir un professeur que je cite avec joie, qui s'appelait Madame Dufay, qui maintenant malheureusement est morte. J'ai cherché à la retrouver, mais trop tard. Et j'ai eu d'autres bons profs de français, mais elle tout particulièrement. Et j'étais avec un don de départ peut-être, mais aussi très valorisée par ce professeur, je me suis vite avérée extrêmement bonne en français, en dissertation, en rédaction. Et là, j'avais de très belles notes et des belles appréciations. Et là, je rencontrais chez moi, surtout du côté de mon père, une fierté immense. Et cette fierté, elle était aussi due au fait que sa propre mère ne savait ni lire ni écrire. Donc tout à coup, en une génération, lui, aîné aussi de sa famille, transmettait par sa fille aînée quelqu'un qui avait toujours été très obsédé par ça, qui maîtrisait la langue du pays d'accueil. C'est pour ça que ça me parle beaucoup, moi, quand certains discours peu à la mode parlent de la valorisation de la langue. Je pense que c'est très important de bien parler la langue du pays dans lequel on est, et que c'est pas une petite chose, et qu'on aurait tort de ne pas s'en préoccuper.
Et dans quelle mesure ce que vous venez de dire, Yasmina Reza, ça joue, ça détermine votre désir d'être écrivain?
Mais j'ai pas de désir d'être écrivain avant très longtemps. Hein. Quand je passe mon baccalauréat, pendant une année, je comprends pas du tout ce que je dois faire. Je suis vraiment extrêmement jeune à ce moment-là. Et ne me vient pas du tout l'idée d'être écrivain, mais même, c'est bien la dernière idée. Quand vous lisez Crime et Châtiment, vous vous dites pas je vais être écrivain, ou alors ça calme tout de suite. C'est impossible. Enfin, ça ne me passe pas par la tête. Mais l'écriture me passe par la tête. Donc j'ai passé le CFJ de journalisme, j'ai fait plein de tentatives qui étaient avortées, pas parce que j'étais pas reçue, mais parce que moi-même je me disais je vais m'ennuyer là-dedans, ça va pas être pour moi. J'étais en fac où il faut écrire, je me disais je vais faire un métier où l'écriture va compter, mais je pensais pas du tout pouvoir être moi-même un écrivain. C'était des métiers annexes de l'écriture. Et puis un jour, mais tard, très tard, une fois que j'ai commencé à vouloir être actrice et que je me suis rendu compte de l'extrême difficulté de ce métier et du malheur qui allait s'en suivre immédiat, puisque c'était une position existentielle impossible pour moi que celle d'attendre. J'avais attendu toute l'enfance d'en sortir. Et là, je me mettais de nouveau à attendre qu'on veuille bien de moi. C'était tout simplement inenvisageable. Donc je me suis dit, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, après tout, tu as ce talent de plume. Et si tu écrivais une pièce, j'allais à ce moment-là 4-5 fois par semaine au théâtre, je connaissais bien le théâtre, j'avais l'expérience du plateau comme actrice, donc je savais tous les ressorts de ça. Et j'ai écrit une pièce uniquement, pourquoi, je veux dire, la forme de la pièce, uniquement pour ne pas, pensant que c'était quand même moins difficile qu'écrire un livre. Ce qui, je pense plus du tout ça maintenant, hein. Mais c'était juste pour me dire, tu oses aller dans la littérature, mais par la toute petite porte.
Il n'y a pas de nécessité alors, c'est vraiment dire, bon, j'essaye, c'est vraiment
non,
ça?
Non, il y a une nécessité créatrice qui est en moi, que je croyais pouvoir exprimer par le mode de l'actrice, parce que c'était physique, et que j'ai vu qu'on ne me laisserait pas le faire comme j'aimerais. Donc il fallait que je fasse quelque chose de créateur. Mais je me disais pas, je veux être un créateur. Je le formulais pas comme ça dans ma tête. Ça finissait par se matérialiser.
Alors c'est en écrivant cette pièce que vous vous rendez compte quand même qu'il y a là chez vous ce potentiel-là, qu'il y a cette envie-là. Ou est-ce qu'il faut attendre? On en reparlera, mais il a fallu du temps pour qu'elle soit montée parce qu'il fallait attendre le bon moment. Pas de concession, on y reviendra. Mais c'est à quel moment vous vous dites, effectivement, c'est ça que je dois faire?
Assez tard, parce que quand je termine cette pièce, elle me paraît très mauvaise. Et surtout, ce dont je me souviens vraiment, c'est que ça me paraît mauvais parce que ça me paraît, c'est une chose fondamentale que j'ai ressentie à chaque fois dans ma vie, mais que j'ai appris à domestiquer, loin de mon ambition de départ. Vous prenez votre papier, vous commencez et vous vous dites « je vais écrire La Mouette
». Oui, oui.
Enfin, pour rester dans les rues, je prends cet exemple. Mais... Et puis arrive la fin de votre pièce et vous vous dites « ben voilà, ma pauvre, tu es très très loin de ton ambition de départ ». Donc un rejet très grand de ce texte, mais que j'ai quand même fait lire. Parce que moi je fais lire... J'ai toujours fait ça, j'ai besoin de l'avis, une fois que je terminais, de certaines personnes que j'écoute. J'espère jamais dans ma vie, encore aujourd'hui, de la même façon, produire quelque chose et avoir de la certitude. C'est pas du tout mon genre. J'aime bien qu'on me renvoie quelque chose. Pas tout le monde, hein, il y a quelques élus, mais ces gens-là, je leur fais confiance et ils peuvent m'influer très, très puissamment. Donc c'était déjà le cas, j'avais de la chance d'avoir un entourage déjà à ce moment-là qui pouvait lire, 2-3 personnes. Ces 2-3 personnes ont lu la pièce et ont été mais extrêmement positives et même presque agressives avec moi par rapport à mon dédain. En me disant, mais écoute, si toi tu veux pas protéger ce texte, nous on va le faire. Et là, je les ai crus et j'ai commencé moi-même à me dire, bon, alors, voyons voir. Ensuite, j'ai beaucoup dit non parce que je savais par expérience que le théâtre doit être très bien fait ou pas du tout. Et puis, quand la pièce, dans les meilleures conditions possibles, a été montée et que je l'ai vue, alors là, oui. Quand je suis allée voir la première représentation, enfin même c'était un filage pour moi avant, là, j'ai eu un choc parce que je me suis dit, il y a... pas une écriture, je peux pas dire que j'ai décelé une écriture, mais il y a une puissance théâtrale. Je voyais que c'était mieux que d'autres choses, quand même.
Et c'était une surprise.
Un peu. Je m'étais un peu conformée à l'idée des autres. Donc je croyais qu'ils avaient raison. Mais profondément en moi, ça a été la vision au Théâtre Paris-Villette, avec Roussillon, avec...
Là encore, c'est physiologique tout de même, Yasmina Reza. Il y a ce moment où vous le voyez, c'est votre corps qui ressent qu'effectivement, ouais, il y a quelque chose sur le plateau.
Ouais. D'ailleurs, une pièce, on sait si elle est bonne quand on la voit sur scène. Faut pas... Ça n'a pas changé, ça. Maintenant, j'ai un peu plus d'intuition à l'écriture. Mais c'est quand on entend les acteurs.
Il faut qu'elle soit éprouvée.
Il faut qu'elle soit éprouvée.
Alors, c'est vrai que depuis, bon, il y a eu beaucoup d'écritures, et c'est vrai que pour schématiser, il y a quand même, disons, deux grandes veines dans votre écriture, et je ne parle pas seulement de théâtre, hein, je parle de théâtre, je parle de nouvelles, je parle de romans, d'autres types de récits, une veine qui serait alors celle de l'ancienne étudiante en sociologie, qui a un regard comme ça très précis sur le monde, assez noir souvent, parfois satirique, donc c'est effectivement c'est art au dieu du carnage, et puis une veine beaucoup plus intimiste, beaucoup plus personnelle, qui est conversation après l'enterrement, Amer Clavier ou Chicas. Ce qui est intéressant dans, et on va en reparler peut-être, mais dans comment vous racontez la partie, la dernière pièce en date, c'est qu'on a l'impression que ces deux veines se sont rejoints, là, cet endroit-là. Est-ce que c'est parce qu'il vous a fallu attendre tout ce temps pour arriver à une fusion, ou est-ce que c'est ce thème-là qui a imposé cette fusion et qu'après, peut-être, ça repartira dans d'autres directions à nouveau?
C'est difficile d'avoir le recul par rapport à soi. Moi, je ne m'auto-analyse pas, je n'historicise pas ce que je fais. Ça vient comme ça. Donc, je ne sais pas. Je pense que... Enfin, en tout cas, je vous suis très reconnaissante de parler des deux veines, parce qu'on ne parle jamais des deux veines. On m'associe toujours à la veine successful. Je pense que si davantage de gens prêtaient attention à ce que j'ai écrit, qui ressemble à Conversation, à Nulle part, à La Luge d'Arthur Schopenhauer, même d'une certaine façon, à L'aube, le soir ou la nuit,
Bien sûr.
À Chicas, on se rendrait compte que je suis au fond beaucoup plus versée dans une veine intimiste et complexe et pas finalement très commerciale. Si, L'aube a été commerciale à cause du sujet, mais en soi, c'est un livre pas si simple à décrypter et très littéraire. Voilà, c'est vrai que comment vous racontez la partie, qui est quand même la... Je pense un texte fort et qui m'a donné énormément de mal, parce qu'il était très près de moi. C'est vrai que ça lie les deux choses, mais bon, je ne m'en étais même pas rendu compte, à vrai dire.
Mais parce que, qu'est-ce qui détermine la couleur ou la tonalité d'un texte? On parlera de musique, donc c'est pour ça que je pense à la tonalité. Il y a d'abord un sujet à traiter, ça commence comment, en fait, véritablement, un texte? C'est une image, c'est une situation, c'est un personnage?
C'est une image, toujours. Pour le théâtre, c'est toujours une image. Toujours.
Il y a alors, jamais... si on prend quelques exemples, le dernier en date, comment vous racontez la partie ?
Comment vous racontez la partie ? Je vais vous dire l'image qui m'a inspirée immédiatement, je la vois. C'est un plateau nu, dans ce genre de salle un peu polyvalente qu'on trouve, mais dans le monde entier.
Oui.
Tout avec ces concepteurs sans imaginaire qui vous font un truc où on se, en général, pas du tout chauffé, d'une laideur effarante, enfin, pas tellement de la laideur, c'est-à-dire la non-personnalité totale, avec des sièges, tout est noir et gris, et les sièges sont turquoises, on ne sait pas pourquoi.
Marron.
Ou d'un marron qui brille. Et donc, pour moi, c'est une femme, il y a des chaises, et elle est là, dans une ville de province, et elle est là toute seule, et elle sait qu'elle va délivrer son livre le soir. Mais l'image, c'est elle venant voir le lieu où elle va parler, où il y a vaguement un pupitre, et elle est là toute seule, et elle se dit, ça va être là. Et ça, c'est une image très forte pour moi, parce que très souvent, j'ai voyagé, et on m'a dit, venez voir le plateau, ça va être là. Quelquefois, c'est bien, et puis quelquefois... On s'est dit, ça va être là, c'est une horreur, c'est épouvantable.
Si on repart de l'écriture, et de ce goût chez vous, de ce qu'on pourrait appeler le non-effet, Yasmina Reza, il s'agit, et vraiment, pour le coup, c'est dans les deux veines qu'on le retrouve, d'écrire à la fois simple, enfin, ou plutôt juste. Je repensais à cette phrase très connu de Franz Kafka, qui dit que le mot juste conduit celui qui n'est pas séduit. C'est ce mot juste que vous cherchez toujours. Et certains s'arrêtent à la simplicité, là où le mot juste, effectivement, serait justesse.
C'est tellement vrai, la phrase de Kafka. C'est... Moi, j'ai tendance à écrire dans un premier jet avec la séduction. Et puis, quand je me relis, c'est-à-dire tout de suite... Vous savez, il y a des écrivains, je repars un peu en arrière, des écrivains, beaucoup, je pense que c'est pas même la majorité, ils font un premier jet, puis après ils reviennent dessus. À moi, c'est complètement impossible, ça. Il faut que la phrase soit juste. Je peux pas passer à la phrase suivante si la phrase ne me plaît pas. Enfin, quand je dis la phrase, ça peut être trois phrases de suite, ou la demi-page, mais pas davantage. Si je tourne la page, il faut que la précédente me plaise. Alors, je commence par écrire avec la séduction, comme j'ai à ma disposition un esprit qui peut aller là-dedans avec des outils de mots sophistiqués. Ça m'est pas très difficile. Et puis il y a quelqu'un d'autre, une autre Yasmina, qui est juste là derrière. Et le jour où je perdrai celle-ci, il faudra que j'arrête d'écrire tout de suite. Hein. Qui dit, ma pauvre fille, qu'est-ce que c'est que ce mot ridicule qu'une personne sur deux va comprendre seulement? Qu'est-ce que c'est que cette tournure un peu frelatée? Qu'est-ce que c'est? Et je barre tout. Et j'arrive à uniquement ce que je veux dire. Et qui est moins séduisant, mais qui est juste. Et voilà, c'est comme ça que... Mais c'est ce deuxième censeur qui fait mon écriture. Alors... La vraie écriture, on n'y parvient pas toujours, hein. On trafique parfois, on trafique au plus près, disons. Mais la vraie écriture, ça serait simplement un truc dégueulé qui serait rendu propre.
En même temps, on voit bien qu'il y a beaucoup de paradoxes à l'œuvre, parce que, premier paradoxe, on peut en tirer plusieurs fils, ce qui compte, c'est ce qui ne se dit pas entre les mots.
Oui, bien sûr.
Le silence, d'abord.
Ah, bien sûr. Les silences sont fondamentaux. Le silence, mais le silence parle. C'est pas n'importe quel silence. Pour créer un silence qui veut dire quelque chose, ou on entend quelque chose dans ce silence, il faut avoir mis à droite et à gauche des mots. Et c'est l'encadrement de ce silence qui va lui donner non seulement sa valeur de silence, mais son sens du silence. Qu'est-ce qu'il raconte ou ne raconte pas, ou qu'est-ce qu'on peut y déceler, y voir. Et pour que le silence soit puissant lui-même, il faut que l'entourage, son entourage, ce qu'il a amené, ce qu'il détermine, soit de l'ordre du vrai, du juste. C'est très difficile de trouver, d'ailleurs, sur le vrai, le juste, on peut discuter pendant des heures. Hein. Moi, je sais que j'ai toujours cette conversation avec André Téchiné, qui est un grand ami. Je dis toujours le mot juste, parce que je l'aime bien, moi, ce mot. André me dit, c'est quoi, juste? Ça l'exaspère, ce mot. Qu'est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça n'existe pas, juste. Et quand il me dit ça, je comprends. Je dis, mais juste pour moi, juste par rapport à mon désir initial. Voilà, c'est ça le juste. Ça n'est que juste par rapport à soi. Ça peut pas être juste en soi. Il n'y a pas de juste en soi.
Un paradoxe d'une autre nature. Vous avez raconté, Yasmina Reza, que voyant art, et c'est le cas dans tous les pays, vous n'entendez pas votre pièce parce que les rires masquent les silences, justement, et que c'est une forme d'échec, finalement.
À la création de art à Paris, on a fait une sorte d'avant-première avant le premier jour de spectateurs. Et à l'époque, la productrice Jacqueline Cormier avait rempli la salle d'étudiants de théâtre. Donc c'était beaucoup de jeunes dans la salle, c'était plein. Moi, j'étais dans une espèce de green room à côté où j'entendais le retour. Et jamais nous n'avions passé ce spectacle devant qui que ce soit, à part l'attaché de presse, la costumière, moi-même, les producteurs. Ce qui fait que les acteurs avaient toujours joué dans une salle atrocement silencieuse. Et même, je pensais, moi, que finalement, je leur avais dit, vous savez, je crois que vous êtes merveilleux, c'est formidable ce que vous faites, mais ça ne serait pas forcément un succès, parce que finalement, c'est une pièce beaucoup plus austère qu'il n'y paraît. Et arrive ce jour, et au retour, j'entends une sorte de grésillement, et je comprends que c'est des rires et des applaudissements pendant le spectacle. Et j'entends ça. Et passe un assistant qui me dit « Yasmina, c'est fabuleux !» Et je dis « Non, c'est pas fabuleux. Moi, cette petite pièce où j'étais était devant l'avenue Montaigne, et il y avait au premier étage, et j'ai dit « Moi, s'il rit là, à tel endroit, moi, je me balance dans la rue Montaigne. » J'étais effondrée. Parce que je me suis dit « Si c'est ça, alors là, on va à la catastrophe. » Et ça a été ça. Et il n'y a rien eu à faire. Nulle part. Ça a été ça partout, quelles que soient les mises en scène, quelle que soit la volonté. Plus les metteurs en scène avaient une volonté par exemple, je me souviens de mise en scène en Allemagne, de rendre la pièce quasiment tragique, plus les gens riaient. Et c'était comme ça.
Et là, c'est quoi? C'est le public qui a raison? Il faut se dire ça?
Bien sûr. Mais c'est moi qui me leurre. C'est-à-dire, c'est moi qui crois que j'écris pas pour ça. Or, j'ai dû écrire pour ça, c'est évident. J'ai dû écrire avec une malice complète, tout le temps. J'ai dû, ce que je croyais, moi, dans la formulation... parce que moi, voilà comment je crois faire, et je me trompe. Je crois être assez habile pour dire, là on rit, là on pleure, là on est ému, là on est intelligent et il ne se passe rien. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que je ne décide pas de l'endroit où ça rit ou ça rit pas.
Encore une fois, il faut que ce soit éprouvé par la présence du public.
Bien sûr, bien sûr. Il y a des choses qui maintenant, dans des bonnes mises en scène, me font rire. Et je me souviens qu'à l'écriture, il y avait cette potentialité de rire, mais que je l'avais occultée. Ou quelquefois, je ne m'en souviens pas. J'écris comme ça, puis c'est drôle parce que le contexte est drôle, parce que l'acteur le fabrique en drôle, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on rit tout le temps. Ça, c'est sûr et certain, mais sûr. J'ai mis longtemps à m'y faire, et avec toutes les implications que ça avait. Parce que le fait qu'on rit tout le temps, ça veut dire qu'on n'entend pas complètement le texte. Ça veut dire que c'est un succès commercial. Ça veut dire des choses pas forcément faciles à gérer.
Et puis encore un paradoxe peut-être. Yasmina Reza, il y a à la fois l'envie de traiter de sujets, c'est un peu dit grossièrement ici, de faire attention à la justesse des mots, et en même temps, il y a un travail sur le style. Là, au sens flaubertien, alors j'ai noté quand même, pour être tout à fait précis, cet extrait de la fameuse lettre à Louise Collet du 16 janvier 1852, où Flaubert écrit « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, C'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous signeriez, Yasmina Reza ?
Bien sûr, c'est ce que j'ai essayé de faire un peu, et je pense que c'est peut-être la seule fois où j'ai réussi. C'est dans les petits textes qui font nulle part ou certains d'Amer Clavier, c'est-à-dire ou certains paragraphes de L'aube, le soir ou la nuit. Mais ça c'est l'idéal et ça tient qu'on arrive à tenir ça que sur très peu de lignes en fait. Enfin moi en tout cas. Et d'ailleurs c'est intéressant sur Flaubert parce que dans sa correspondance il est beaucoup plus proche de ça, de mon point de vue, que dans ses livres.
Mais c'est quoi ce désir-là, alors ? C'est le désir de dire que... on en reparlera peut-être, mais de dire que la littérature, ça peut être aussi fort que la musique ?
Non, je suis catégorique là-dessus. La littérature est très en dessous. La littérature... On peut élever la littérature à un certain niveau. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête. Même Shakespeare. Parce que la littérature est toujours, quoi qu'on fasse, je ne parle pas de la poésie, la poésie est un mystère, mais la littérature, théâtre ou littérature de prose, enfin, je ne sais pas quel est le bon mot pour les différencier, mais c'est reconnaissable, c'est des mots, c'est un matériau qu'on utilise tous les jours. Et tous les écrivains vous diront qu'ils volent des phrases de la vie courante. La musique, on ne comprend pas. De quoi c'est fait. On a beau dire, la musique, il y a des structures, il y a des lois très précises, il y a un côté un peu scientifique presque dans la musique. Ça a été étudié, la musique, c'est une matière tangible. Mais l'émotion que procure la musique n'a jamais pu être étudiée. Elle ne peut pas l'être, elle est céleste, c'est céleste. Et quand je parle de ça, je parle aussi bien de Bach que de heavy metal, que moi j'adore, parce que moi j'aime toutes sortes de musiques, mon spectre est immense, y compris la variété. J'ai du meilleur goût au plus mauvais goût en musique. Quelquefois, on ne dit pas parfois en français, je crois, j'aime autant l'un que l'autre, je fais à peine de hiérarchie. Et à chaque fois, ça me renvoie à quelque chose que je ne comprends pas moi-même, à des émotions extrêmement fortes, à des souvenirs, à des... Je peux croire en Dieu avec la musique. Il n'y a aucun texte au monde qui m'y fera croire ou pas croire. Donc la littérature n'arrive pas à ce degré.
C'était À Voix Nue. Arnaud Laporte s'entretenait avec Yasmina Reza. Prise de son Michel Mestre. Réalisation, Viviane Noël. Demain, pause, silence, un temps.